Notre prochain sujet, on vous en parle là, à peu près une fois par année, à cet ainsi de l'année d'ailleurs, là, quelque part en décembre, le bureau du coroner qui lance un appel au public afin de retrouver les proches de personnes dont les corps n'ont pas été réclamés à la morgue de Montréal. D'ailleurs, c'est à la morgue de Montréal que les corps non réclamés ici en Outaouais se retrouvent. Avec nous pour en parler aujourd'hui, ma collègue Monique Néron de Cogeco Nouvelles à Montréal, qui a obtenu des informations qui démontrent un manque de communication qui semble assez évident pour établir des liens entre les corps non réclamés à la morgue et les disparitions de personnes. Alors, elle est en bout de ligne. Salut, Monique.
Oui, allô.
Alors, tout ça part d'une entrevue que tu as réalisée avec un homme qui a retrouvé le corps de sa mère à la morgue, mais tout juste avant qu'elle soit enterrée dans une fosse commune.
En effet, et c'est profondément troublant. Ça soulève des questions. Combien de corps de disparus ont été enterrés en fosse commune avant même d'être identifiés? Ça remonte à quelques années, cette affaire-là, quand même, mais vous allez voir que ça a nécessité des démarches ensuite pour savoir est-ce que ça a changé ou pas. Le SPVM avait reçu un signalement de disparition concernant Mme Marcel, 59 ans. Elle s'était jamais présentée au travail depuis 2 semaines. Son fils avait été avisé. Et là, il se fait dire à ce moment-là, bien, écoutez, votre mère a 59 ans, pas de problème de santé connu, peut-être qu'elle est partie de son plein gré. Vous comprendrez qu'à ce stade-ci, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire dans l'immédiat. Et lui, c'est une réponse qui ne le satisfait pas. Il se dit, je laisse tout tomber, je vais mettre mon travail sur pause et je vais moi-même mener l'enquête pour tenter de retrouver ma mère. Et là, il se met à fouiller. Il n'a pas que fouillé chez elle. Là. Il a distribué des tracts, il a appelé dans les hôpitaux, il a interrogé des voisins, il est allé voir son employeur. Bref, il a fait la job de la police, là, disons ça comme ça. Et en cherchant chez elle, chez sa mère, il a trouvé dans ses papiers des cahiers de notes et une piste assez intéressante. Je vous laisse l'entendre.
En dépliant des autobus voyageurs avec Rimouski encerclé. C'est tout ce que ça me prenait, moi, pour m'y rendre. Puis ben, écoutez, je viens de Montréal, j'ai eu des raisons de croire que ma mère serait venue dans ce coin-ci, voici le tract. Ça n'a pas pris 2 minutes. Ce qu'ils m'ont signalé, c'est que ça faisait déjà un bout de temps qu'il y avait une personne correspondant aux caractéristiques de ma mère. Il avait trouvé un corps, mais il n'y avait pas personne dans le Bas-Saint-Laurent avec ces caractéristiques-là. Je dois vous dire que ce qui me percute dans tout ça, c'est que le corps de ma mère était à la morgue de Montréal avant même que la plainte soit logée. Donc, il n'aurait fallu qu'une visite d'aller voir les corps des personnes inconnues, puis il l'aurait trouvé, là.
Donc, ça nous laisse croire que la police ne parle pas au bureau du coroner qui est responsable de la morgue.
Et la communication ne s'est jamais faite et c'est ça qui est profondément troublant parce que là, le SPVM dit à la famille, bon, ben écoutez, on peut pas faire grand-chose. La famille tente, elle, à la morgue de dire, ben est-ce que je peux envoyer une photo? On leur répond, non, non, c'est beau, monsieur, la police s'en occupe. Mais en réalité, personne s'en occupait. Et le corps était à la morgue à Montréal et on comprend qu'il avait été envoyé là, seulement quelques jours à peine après la découverte de la dame qui était morte noyée, soit dit en passant, au cours de l'été du côté de Matane dans le Bas-Saint-Laurent. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que personne n'avait fait le lien, mais attendez de voir à quel point c'était in extremis.
Je ne peux pas m'imaginer qu'il soit demandant en termes de paperasse et d'effort d'aller à la morgue et d'aller voir le corps des inconnus. Ce qu'on m'a annoncé à l'époque, c'est qu'il était moyen. Là. C'était un petit peu une extrémiste. 2 semaines plus tard, après le moment où je me suis rendu à Rimouski, 2 semaines plus tard, le corps se retrouvait en fosse commune. Après ça, on aurait perdu toute opportunité d'allier la disparue avec le corps. C'est un stress émotif qui est considérable. Je souhaite ça à personne.
Bien, je comprends. Monique, est-ce que ça pourrait être une erreur de parcours, un cas isolé où on a des raisons de croire que ça se passe souvent comme ça dans les corps policiers du Québec?
En fait, si j'ai fait cette entrevue-là, c'est à la suite d'une autre histoire que j'avais racontée il y a quelques semaines à peine qui disait qu'un des parents montréalais avaient porté leur fils disparu il y a une vingtaine d'années, imaginez. Et pendant 20 ans, ils se sont fait toutes sortes de scénarios. Ils ont imaginé le pire, bien sûr, mais ils ont surtout pensé qu'il pouvait être encore vivant quelque part, alors qu'en réalité, ils ont découvert que leur fils avait été retrouvé sans vie quelques mois seulement après sa disparition il y a 20 ans.
Bien, voyons, donc pendant tout ce temps-là, le corps était à la morgue.
Le corps n'était plus à la morgue, le corps avait été enterré dans une fosse commune à Laval sous un numéro et personne ne savait Personne n'avait fait le lien. Et c'est un enquêteur de la Sûreté du Québec qui a mis des efforts. C'est absolument incroyable ce qu'il a fait pour faire le lien et apporter une réponse à cette famille-là. Mais c'est pour ça que je vous dis combien d'autres corps on a enterrés comme ça dans des fosses communes sous un numéro, alors qu'il correspondait peut-être à une personne portée disparue. Et là, ce qu'on se rend compte quand on questionne les corps policiers québécois aujourd'hui en 2018 pour savoir est-ce que c'est encore possible, bien, malheureusement, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on découvre qu'il n'y a pas de communication systématique entre les corps policiers quand il est question de disparition non résolue. Si vous avez un endroit pour disparaître, là, vous êtes mieux de disparaître sur le territoire de la Sûreté du Québec. Parce que si c'est un corps policier municipal, c'est à leur, selon leur bonne volonté ou en tout cas en cours d'enquête qui décident de partager ou non l'information aux autres corps policiers. Alors qu'à la SQ, ça se fait systématiquement.
En partant.
Exact. L'information est envoyée partout au Canada, donc facilement accessible pour les autres corps policiers. Mais les corps policiers municipaux, ça demeure à leur discrétion. Et il y a aussi des ressources qui existent à la Sûreté du Québec. Ce sont des coordonnateurs nationaux spécialisés en disparition. Ça, c'est offert sur un plateau d'argent à tous les corps policiers municipaux. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'on n'utilise pas ces ressources-là, qui sont là en place pour justement être capable d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale, de faire des recroisements qui n'ont peut-être pas été faits. Mais pourtant, c'est ça la clé,
mais oui,
je pense.
Mais pourquoi? C'est-tu une question de rivalité en corps policier? C'est-tu parce qu'on envoie une facture? J'essaie de comprendre, Monique.
J'ai pas l'impression que c'est une question d'argent. J'ai vraiment l'impression que c'est une question de... On parle souvent de guerre de clochers. Là, les corps policiers municipaux disent on est capable, on a les effectifs. Mm. C'est du niveau 1 hein, de la disparition, c'est-à-dire que n'importe quel corps policier est à même d'enquêter là-dessus. Sauf que le problème, c'est que cette banque de données-là, qui serait essentielle et utile et qui éviterait ce genre de situation-là, elle existe. Elle est à la Sûreté du Québec, mais malheureusement, elle n'est pas alimentée par tous les corps policiers québécois, ce qui fait en sorte que ça devient un peu caduque dans le sens où on n'a pas toute l'information qui permettrait de résoudre. Si on avait un site, on n'a même pas un seul site au Québec qui recense tous les corps non identifiés et les disparitions. On y a ça en Ontario, par exemple. Vos voisins, là, eux autres, ils ont tout compris. Là, ils ont fait
ce on est en 2018, là, technologiquement, c'est rien de compliqué. Alors, morale de cette histoire, si vous êtes, exemple, à Gatineau ou dans une municipalité où vous êtes desservi par un corps policier municipal et qu'il y a une disparition dans votre famille, peut-être insister pour qu'on contacte la Sûreté du Québec en partant.
Je pense que c'est effectivement une bonne chose à faire, que les démarches soient faites et qu'on fasse les démarches auprès de la morgue. Parce que quand j'ai posé la question à la majorité des corps policiers en disant « Est-ce que les enquêteurs systématiquement, exemple, votre père, votre mère, votre oncle, votre tante est porté disparu, vont se tourner vers la morgue? » On me répond que non. Alors que j'aurais tendance à penser que c'est quand même une des démarches à faire quand on ne trouve pas un adulte qui manque à l'appel, qu'il soit sans histoire ou pas, ça n'a pas d'importance, qu'à partir du moment où les proches disent qu'il y a quelque chose qui cloche, moi, ça fait des années que j'essaie de défendre ça parce que j'ai couvert toutes sortes d'histoires qui reviennent toujours au même, c'est-à-dire il y a de profondes lacunes en matière de disparition en sol québécois.
Oui, oui, puis il n'y a rien de plus difficile pour une famille quand on ne sait pas. Est-ce que, disons, papa est mort ou vivant? On le sait pas, c'est ça qui gruge, c'est ça qui est difficile émotivement. Merci beaucoup, Monique. Excellent travail encore une fois.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Voilà, c'était la collègue Monique Néron de Cogeco Nouvelles à Montréal.